faut que je remette un de mes billets à jour, hein, que j'appellerai le problème. Notre problème, c'est pas la Chine, c'est l'Allemagne, au sens économique. Oui, bien sûr. Bien sûr que l'Allemagne, en ce moment, profite de l'euro pour avoir une monnaie trop faible par rapport à ce qu'elle devrait être si elle avait gardé la sienne, ce qui donc améliore ses exportations. Et en clair, l'enrichit à notre détriment. Mais là aussi, enfin, c'était prévisible quand on a fait l'euro. On n'a pas pensé à un mécanisme. Comment je fais, vu que pareil, quoi, ça fait 50 ans que l'économie allemande, pour diverses raisons, elle est plus compétitive que l'économie française. Bon, en clair, l'économie allemande, c'est plutôt spécialisé dans de la production industrielle et nous, plutôt dans de la consommation. Forcément, ça risquait d'arriver, ce truc-là. Mais si on fait juste une monnaie unique et que je ne prévois pas de mécanisme pour équilibrer, ça finit par y avoir ce qui se passe. Autrement dit, des déficits énormes de la France envers l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est en déficit avec la Chine, il faudrait dire qu'elle est super compétitive. Pratiquement tout son grand excédent, elle le fait en Europe à 75-80%. Alors attention, au 14 novembre 2011, elle n'a pas intérêt à sortir. C'est sûr qu'elle n'a pas intérêt à sortir. Parce que pour le moment, elle bénéficie d'une monnaie en clair moins chère et c'est à son avantage. Bon, ouais, aujourd'hui, elle n'a pas intérêt. Demain, si on est en train de faire n'importe quoi avec la monnaie, la question va se poser. Hier, il y a le président, ça m'a beaucoup étonné, du syndicat des entreprises exportatrices allemandes. Ouais, Dieu sait que c'est quand même bien lui qui va représenter tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent à l'exportation, qui a dit, clairement, nous on aime bien l'euro, mais enfin, ceci étant, on vivait sans, s'il devait disparaître, on vivra sans. Bon, quand ils commencent à dire ça dans le journal, c'est que les gens, ils savent compter. Parce qu'évidemment qu'aujourd'hui, ils ont intérêt à avoir un euro qui les aide bien. Je répète, si demain l'euro, vous le transformez en papier toilette, ils n'ont plus beaucoup d'intérêt à garder l'euro.
Non, au bout non. Et si mes clients, ils n'ont que du papier toilette pour acheter leurs produits.
Ah, mais je suis d'accord, mais je pense qu'avant de penser à leur industrie d'exportation, ils penseront à leur pays.
Ah, parce que leur pays, c'est pas leur industrie d'exportation.
Non. Vous expliquerez à tous les Allemands qui ont de l'épargne et que leur épargne risque d'être transformée en papier toilette pour aider les entreprises exportatrices, je pense que ça ne va pas les faire rire. Non, mais c'est ça qui compte. Non, mais attendez, quand je transforme la monnaie, c'est vos économies chez vous. Hein. Attendez, je ne suis pas en train de parler, moi, des entreprises. Non, c'est ce que vous avez sur votre compte courant, c'est vos économies. Ce truc-là, c'est ça le sujet. C'est ça qui va leur faire peur aux Allemands. Alors, cet aspect, vous me dites, ah oui, mais ils n'ont pas intérêt, ils ne feront rien. Je vous rappelle qu'il y a 6 mois, on a proposé à l'Allemagne la présidence de la BCE, évidemment. Il a fait quoi? Il a fait quoi, le banquier central allemand? Il est parti. Il est parti, il a démissionné. Hein. C'est pour ça qu'il y a un Italien et que ce n'est pas l'Allemand. Donc, quand on propose à la présidence de la Banque centrale un Allemand, que l'Allemand il n'en veut pas, c'est peut-être un signe de confiance énorme et d'avenir énorme de l'Allemagne dans l'euro. Moi, j'en suis pas persuadé. Le chef économiste de la BCE était aussi un Allemand et était présent au board. Il a démissionné il y a 2 mois parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique de tricher, de racheter les obligations pourries de l'Italie. Donc, l'Allemagne avait en gros deux représentants au board. Les deux n'ont pas voulu prendre des responsabilités ou sont partis. Je ne sais pas. On verra ce que ça fait, hein. De gouvernance de quoi ?
De gouvernance des pays entre eux, c'est-à-dire de considérer l'Europe comme un lieu d'échange réel avec une manière de travailler.
Oui, d'accord, bien sûr qu'il y a cette question-là. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Je reviens, il y a la CDU en ce moment, donc qui est comme le parti au pouvoir. Je ne sais pas si vous avez vu, qui est en train de voter pour modifier les statuts de la Banque centrale et de dire que, parce qu'aujourd'hui, comment marche le board de la Banque centrale ? Vous avez les 17 banquiers centraux. Plus, je crois, le chef économiste de mémoire qui est présent au conseil d'administration, et c'est un homme, une voix. Bon, démocratique, moins qu'on puisse dire, une forme de démocratie. Bon, la CDU est en train de voter en ce moment une motion pour demander à ce qu'on passe à une voix pondérée par l'économie. Donc là, pour que l'Allemagne récupère 20% des voix là-dedans. Je pense qu'ils vont le voter, c'est de bon sens. Moi, j'aurai leur place aussi, j'ai demandé d'être bien gentil, mais enfin, je représente 25% de la zone euro, c'est pas normal que j'ai que 1/17 des voix. Surtout quand les gens sont en train de faire n'importe quoi. Bon, une fois qu'ils vont l'avoir voté, ce truc-là, il va se passer quoi? Bon, Merkel va le demander, on va lui donner, on va pas lui donner. Bon, si on lui donne pas, ce sera une pierre de plus pour dire que ce truc-là risque de pas être d'un optimisme franc pour les Allemands. Ouais, après c'est des risques, j'en sais rien. Peut-être que au dernier moment de la crise, ils diront c'est pas grave, on va prendre les papiers toilettes parce que peut-être, je sais pas. Hein. Mais je dis juste, c'est quand même pas la tendance historique de l'Allemagne. Nous on se rend pas compte, on n'a pas connu 1923. Pour eux, c'est exactement de la même façon que si on disait tiens, il y a Merkel qui nous dit, il y a une bonne idée, il faut supprimer la sécurité sociale en Europe. Mais c'est ça pour revenir. Leur attachement dans leur monnaie, c'est le même que nous pour nos services publics ou pour la sécurité sociale. Hein. C'est pas un petit truc. Oui, peut-être. Mais peut-être. Mais oui, en effet.
Et techniquement, pourquoi on dévalue pas la Grèce au sein de l'euro ?
Mais c'est pas possible, puisque pour dévaluer, il faudra encore qu'il y ait une monnaie. Il n'y a plus de monnaie. Mais il n'y a qu'une monnaie, c'est l'euro.
Non, mais si on ajustait leur salaire, effectivement, en rapport juste pour les laisser au sein de l'euro, mais dévaluer, c'est pas inventer un système.
Alors, dévaluer quoi ? Oui, c'est une espèce de déflation. Alors, on fait quoi ? Oui, ça revient à dire aux Grecs, on a une bonne idée, vous allez tous gagner 20% de moins l'année prochaine. Alors déjà, je ne sais pas déjà comment vous faites, hein, parce que très concrètement, je fais quoi là ? Je prends le Parlement grec et je leur dis, vous allez fixer les prix, parce que les prix sont libres aujourd'hui, hein, je ne vois pas comment je déflate quoi que ce soit. Donc on revient dans une économie administrée communiste, et puis je vous fixe vos salaires, et puis bonne nouvelle, vous perdez 20 ou 30% de moins dans le lot.
On les sort, on les rend de nos jours.
Oui, non mais blague à part, c'est ça qu'il faudrait faire. Blague à part, mais on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il vous faut une monnaie où vous arrivez à adapter...
C'est flottant, mais c'est...
J'ai jamais dit flottant, attention. J'ai jamais dit de monnaie flottante si on revient à des monnaies. Parce que ça, pour le coup, c'est terrible parce que vous redonnez la main au marché et ça ne tiendra pas. Il faut que la parité, elle soit fixe. Alors, tout comme on a dit que c'était 6 francs 55 machin pour 1 euro. Faut ça, mais simplement, il faut dire que ben voilà, c'était 1 franc 65. Enfin, c'était 6 francs 50. Non, c'est 6 francs 40. Et puis c'est 6 francs 30 et c'est 6 francs 10. Et ça, je vous le change tous les ans en dur. Ça marche, c'est politique, c'est une négociation enfin, qui, au final, sera adaptée à la réalité de l'économie. Il ne faut pas que ce soit flottant. Si c'est flottant, là, vous repartez sur les changes flottants actuels qui sont dramatiques. Mais c'est de ça dont on manque. Et si j'en reviens tout à l'heure pour parler de votre question, oui. Ben, il faut une monnaie mondiale, mais une monnaie de compte, qui ne sera pas une monnaie qu'on aura dans notre poche, bien évidemment. C'est une illusion. Il n'y aura jamais une monnaie unique, mais il faut qu'on arrive à fixer les monnaies entre elles une bonne fois pour toutes. Alors, quand vous prenez des parités de pouvoir d'achat aujourd'hui, vous regardez. Un euro, c'est 1,30 $ à peu près, à niveau de vie équivalent, on appelle les parités de pouvoir d'achat. Ça devrait être ça, la parité. Euro-dollar, elle n'a pas de raison de changer autour de ce truc-là. Donc on devrait dire, c'est 1,30 $, point, en tout cas pour les 18 mois qui viennent, et puis on en reparle dans 18 mois. Mais c'est vrai, quand vous laissez les marchés flotter, que vous laissez la spéculation, bah, ça fait tout et n'importe quoi. Ça passe par du 1,50, ça tombe par 1,10, et puis quand vous êtes exportateur là-dessus, bah, vous avez le couteau sous la gorge avec des variations. Mais qui sont sans aucun sens. Hein. Enfin, vous imaginez ce qu'il faut faire pour gagner 5% de productivité sur du salaire, pour une entreprise que ça représente, gagner 5% de productivité quand votre monnaie elle aura bougé de 20% en quelques semaines. C'est de la folie furieuse de garder les monnaies flottantes comme ça. Mais sauf que si les monnaies ne sont pas flottantes, ça pose un certain nombre de questions et il faut trouver des mécanismes d'ajustement, qui étaient les mécanismes un peu de Keynes dans les années 40 qui n'ont jamais été mis en œuvre. Mais c'est ça qui manque vraiment dans le système. Mais c'est parce que vous créez une monnaie mondiale de ce type-là que vous n'avez pas gardé vos monnaies nationales, voire locales. C'est tout à fait possible. L'un implique pas l'autre. On pourrait très bien voir. Il y a un vrai besoin de ce mécanisme-là, qui d'ailleurs la Chine met en avant, mais qui est en rien contradictoire avec des mécanismes éventuellement aussi de monnaie plus locale. Oui. Et plus il y aura de la défiance dans la monnaie, plus vous aurez des tentations d'avoir des monnaies locales. Ouais, donc que va faire l'Allemagne, ça va être une question intéressante dans les mois qui viennent. Il faut vraiment scruter les indices qu'il y aura sur ce point-là.
Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du tout effectivement du pound et du dollar aujourd'hui ? C'est purement des
médias. Oui, là, clairement, il y a un enfumage assez magnifique sur la situation en Europe. Parce qu'on a tendance, si vous regardez, en plus, même avec ses défauts, l'euro par rapport au dollar, on ne peut pas dire qu'il bouge des masses. Hein. Non, parce que disons un truc apocalyptique, on va tous mourir la semaine prochaine, et alors, ça, quand même, l'euro, disons, il n'est même pas baissé. Alors, ce qui n'est pas forcément non plus un signe très positif, hein, parce que rien n'empêche les deux de couler en même temps, et c'est aussi un peu ce qui se passe. Bon, les États-Unis vont aussi mal que l'Europe, et quand vous n'avez pas de référentiel réel physique, vous êtes en train de comparer deux choses flottantes, mais sans regarder un référentiel autre. Parce que si vous regardez combien. Parce que vous faites une parité par rapport à l'or, au flottant aujourd'hui, vous voyez très bien que la valeur des monnaies a fortement baissé, si vous regardez ça dans ce. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais ça, on me le sort souvent. On en reparle dans un an et dans deux ans. C'est pas des mécanismes qui sont à l'œuvre forcément dans la semaine, surtout quand on se met à toucher aux États-Unis. Vous remarquez qu'il y a eu ça assez rapidement. Tout d'un coup, il y a des crises partout en Europe, en tout cas dans les médias. Il faut m'expliquer en quoi les États-Unis vont mieux qu'au mois d'août.
J'imagine que les investisseurs préfèrent investir, même s'ils sont visiblement, ils vont au fond du trou.
Oui.
Aujourd'hui, ils continuent à...
Tout à fait. Ah, mais c'est très bien. Mais ça, après, il n'y a pas de... Enfin, il y en a qui aiment ça, donc bon, bah, tiens, après, le masochisme est quand même assez vieux dans la population, c'est très bien. S'ils ont envie d'aller aux États-Unis, qu'ils aillent aux États-Unis, mais grand bien leur face. Faudra juste pas pleurer quand ils auront un pépin, c'est tout, mais c'est un choix d'investisseur.
Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène aussi de. Les gens ont de l'argent, ils doivent le placer, à la limite, ils préfèrent encore le placer aux États-Unis pour l'instant.
Non, bah, vous, ça, c'est un truc que j'entends très souvent aussi, mais ce schéma qui consiste à dire il n'y a pas de souci, on nous prêtera toujours de l'argent parce que les gens, ils n'ont pas le choix. J'attends de voir. Ils ont toujours le choix de garder leur argent sous leur matelas, les gens. Et le jour où ils penseront que si vous le prêtez, ils ne le reverront pas, bah vous verrez qu'il restera sous le matelas. Parce que le seul truc dans ce cas-là, vous risquez, c'est l'inflation au pire, mais de toute façon, c'est un moins pire que si vous êtes, si vous mettez ça dans un trou sans fond, vous ne serez pas remboursé. Oui, c'est le problème. Après, c'est un problème psychologique. Il n'y a pas de raison que ça se passe, mais vous avez super bien analysé la situation. C'est exactement ça aujourd'hui. Donc, continue à dire, j'ai super confiance. Je vous rappelle que PIMCO, qui est le plus gros, pour le coup, investisseur obligataire mondial, il a vendu toutes ses dettes américaines. Certes, il a fait il y a 9 mois, il a eu des pressions énormes, il essaie de dire, ah ouais, mais enfin bon, j'ai peut-être été un peu dur. Mais quoi qu'il en soit, en effet, c'est vraiment pas prudent de faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a des sommes qui cherchent à se placer, donc elles vont là-dessus. Bon, bah, en tout cas, juste, c'est pas interdit, mais faut pas pleurer si c'est perdu. Et je suis frappé quand je vois des investisseurs et je leur en parle qui me disent oh, « bah, de toute façon, les États-Unis, c'est n'importe quoi, c'est un mécanisme de Ponzi terrible. » Je dis « Mais vous continuez à investir ?» Oui, effectivement, on n'a pas trop le choix. Ouais. Alors, c'est déjà pas très sympa de se faire arnaquer par Madoff, mais si vous saviez que c'était quand même du Madoff et que c'était pas ça, il faut quand même arrêter, pas m'expliquer qu'il faut que je paye les pertes. Quoi. Ouais, mais ça c'est très drôle ces histoires d'agences de notation qui en plus va être le sujet d'aujourd'hui et de demain, quoi, puisqu'il y a, la fameuse régulation européenne qui va sortir. Moi ça fait mourir de rire ce truc-là. Parce qu'autant les agences de notation elles ont gravement fauté sur les subprimes, autant franchement sur les États faut arrêter de rigoler. Moi le truc que je dénonce c'est qu'elles sont beaucoup trop complaisantes avec nous les agences de notation. La question c'est pas de savoir est-ce qu'on a un triple A, est-ce qu'on le garde. La question c'est est-ce qu'on mérite un triple A. On va déjà commencer par ça pour le raisonnement, sinon on s'en sort pas. Donc, est-ce qu'on mérite un triple A? Je ne veux pas ressortir les chiffres, en plus, vu l'heure. Hein. Enfin, bien évidemment, la réponse est non. On ne mérite pas un triple A. Et c'est dramatique, parce qu'à la rigueur, si ça marchait bien, et je pense aussi que ça peut difficilement bien marcher, ce genre de truc, une agence de notation qui vous note, c'est une espèce d'altimètre dans un avion. Si vous dites, il est super, mon altimètre, juste, je le bloque à 10 000 pieds, quoi qu'il arrive. Bah, faut pas pleurer le jour où on se crache, quoi. Vous crachez, en effet, avec un altimètre à 10 000 pieds. Hein, mais c'est juste, c'est pas la bonne altitude. Et ce truc-là... Le raisonnement derrière des marchés, c'est que plus la note se dégrade, plus vous payez cher, et donc plus vous avez intérêt à essayer de corriger vos déficits. Bon, comme on ne fait pas ça, vous êtes en acharnement thérapeutique, quelque part, sur votre dette, et donc elle ne coûte pas cher, donc vous montez de plus en plus la dette, alors que votre taux d'intérêt reste bas. C'est dramatique. Ça, c'est clairement la technique du dealer. Vous êtes dealer de cocaïne, le premier truc, vous la donnez gratuite, votre cocaïne. Ça, au moins, c'est super. Vous dites, ah, vraiment. Alors ce mois-ci, cocaïne gratuite. Donc là, tout le monde se régale, et puis au bout d'un mois, vous dites non, finalement, la cocaïne, maintenant, c'est 1000 euros le gramme, une fois que tout le monde est accro. C'est exactement ça qui se passe avec les États. Vous avez votre dette qui a augmenté très fortement, vous regarderez les schémas sur le blog régulièrement, et vous voyez que les taux d'intérêt, ils ont monté en parallèle, et brutalement, aux années 90, parce que les taux ont baissé fortement, ça s'arrête, voire ça baisse. Donc vous avez une situation folle, la dette augmente, le coût de la dette baisse. Et donc, vous faites de la dette, ça coûte rien. Mais ça coûte rien tant que le taux d'intérêt est à 3% ou à 2% ou à 1%. Mais quand brutalement, comme l'Italie, en 6 mois, le taux il passe de 3 à 4% à 7%, bah, brutalement, alors c'est pas immédiat parce que le taux ne s'impacte pas immédiatement sur toute la dette, mais on voit très bien que le temps que ça roule en quelques années, vous allez remettre votre charge d'intérêt où ça devrait être, autrement dit, au niveau de la dette, hein, visuellement par rapport au ratio qu'il y avait dans les années 80. Et donc ça, c'est faillite directe. Pour le coup, c'est faillite directe. Pour le coup, nous, si nos taux d'intérêt ils passent à... Bah, regardez, imaginez, hein. Bah, le temps que ça se passe, on va être à 2000 milliards d'euros de dette. Imaginez que le taux d'intérêt il passe à 8 sur 10 000, vous êtes à 160 milliards d'intérêts tous les ans à sortir. Votre budget, c'est 200 déjà. C'est-à-dire que bientôt, il y a plus d'intérêts que ce qu'on aura de recettes.